Bonjour, goedemorgen. Bienvenue dans le pavillon du silence à Halle, en Belgique. Wees welkom in het stiltepaviljoen in Halle, in België. Comme vous savez tous, je crois, le bouddhisme, la voie du Bouddha, c'est l'éthique et la pratique de l'action juste. Ik denk dat iedereen weet dat het boeddhisme, of laten we het misschien eerder zeggen, de weg van de Boeddha, de ethiek en de beoefening is van de juiste handeling. Comment doit-on se comporter dans la vie? C'est ça le cœur de la pratique. Hoe moeten we ons gedragen in het leven? Dat is het hart van de beoefening. Maître Kodosawaki, lui, disait: comment bouger son corps? Meester Kodosawaki zei: hoe moet je je lichaam bewegen? Donc c'est vraiment au niveau très pratique, très concret de la vie quotidienne, de toutes les actions, parce qu'on va parler aujourd'hui de l'action, que notre pratique se situe. Dus het is werkelijk op het allerlaagste, zou ik zeggen, maar het meest basic niveau van het leven, hoe we moeten handelen, want daarover gaan we het hebben vandaag, handeling. Dat de beoefening zich bevindt. Donc, d'une façon ou d'une autre, quand on est avec la pratique, on doit se frotter, on doit étudier le problème, pas problème, non, mais la loi du karma. Dus wanneer we met de beoefening bezig zijn, kunnen we niet anders dan ons te confronteren met de wet van de karma. En van dat te bestuderen en van dat te doorgronden. Is het pas quelque chose de simple? Het is niet iets dat eenvoudig is. De Boeddha zegt, le Bouddha il dit, dans le Anguttara Nikaya, Anguttara Nikaya, le chapitre 6, 63, le karma doit être connu. La cause par laquelle le karma entre en jeu doit être connue. La diversité du karma doit être connue. Le résultat du karma doit être connu. La cessation du karma doit être connue. La voie de la pratique pour la cessation du karma doit être connue. Dus hij zegt in de Anguttara Nikaya, het hoofdstuk 6, 63, het karma moet gekend worden. De oorzaak waardoor het karma ontstaat moet gekend zijn. De diversiteit van karma moet gekend worden. Het resultaat van de karma moet gekend worden. De beëindiging van karma moet gekend zijn. Het pad van beoefening voor de beëindiging van karma moet gekend zijn. Donc ça montre vraiment bien toute l'importance que le Bouddha donnait à l'étude, l'approfondissement du karma. Donc dans cette échange, je vais vous donner, dus het geeft dan wel heel duidelijk weer die versen, het belang dat de Boeddha gaf aan de studie, het doorgronden van de karma. Je vais donc dans cette échange vous donner des points de repère, parce que c'est vaste, le sujet est très vaste, mais je vais vous donner quelques points de repère qui vont vous aider pour étudier vous-même cette loi du karma. Dus wat ik in deze tijdshow ga doen, is jullie een aantal richting aangeven, een aantal herkenningspunten aangeven, zodat je in je zelfstudie naar karma een beetje houvast hebt. Want het onderwerp is zeer ruim. Het is niet een theorie, het is vraiment een praktijk. Dat is niet zomaar een theorie die de Boeddha heeft bedacht. Het is een beoefening. En plus, c'est le karma existait avant le Bouddha, déjà. La notion de karma existait déjà dans l'hindouïsme. Mais lui l'a reformulé. Het begrip karma bestond voor de tijd van de Bouddha, reeds in het hindoeïsme. En de Bouddha heeft dat herformuleerd. Alors, on va commencer comme à l'école. Laten we beginnen zoals in school. On va commencer avec la définition. Je n'ai pas un tableau noir ici, c'est dommage. Ik heb hier geen zwart bord, maar het zou wel lukken. Donc, Karma, ça signifie l'acte. L'acte, l'action. Mais je vais tout de suite dire, pour être encore plus précis, c'est l'activité conditionnée. Dus karma betekent handeling, betekent actie. Maar ik ga daar direct aan toevoegen om veel preciezer te zijn. Het is de geconditioneerde handeling. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une action qui est faite par hasard, sans avoir réfléchi avant, anodine. Par exemple, on rentre dans un restaurant, on touche la table du voisin, pouf, le verre de vin tombe. C'est pas un karma, ça. Hein? C'est pas quelque chose qui a été mûri, etc., dans la tête. Et donc, wanneer je une heel eenvoudige handeling die op toeval berust. Ja, je loopt een restaurant binnen, niet gewild, hè, op toeval. Je loopt een restaurant binnen, je stoot een tafel, poef, een wijnglas kantelt om. Dat is geen karma. C'est une simple action. Donc le karma, c'est vraiment quelque chose qui est voulu. Voilà. Het is echt iets dat gewild is. Alors, l'acte, pour le Bouddha, c'est trois activités. Voor de Bouddha, zijn dat drie verschillende handelingen. C'est l'acte du corps, l'activité du corps, de la parole, ce qu'on dit, et de l'esprit, notre état mental. C'est aussi un acte, c'est aussi du karma. Dus voor de Bouddha is karma drie punten. Het is de handeling van het lichaam. Het is de handeling van de spraak. Dus alles wat we zeggen is karma, als we het echt bewust willen. En onze mentale toestand is ook karma. Voilà. Troisième point, à bien dire pour la définition. Karma, ce n'est pas seulement l'action, mais c'est aussi ce qui met cette action en mouvement. Donc l'intention, encore une fois, l'attitude de l'esprit. Le karma enveloppe ça. Et d'ailleurs, plus tard dans le Teshuva, je vais vraiment développer ça, le Bouddha l'explique lui-même, la façon dont ça fonctionne. Dus karma is niet enkel de handeling zelf, maar het is wat de handeling in gang zet. Dus de intentie die we hebben. De geestestoestand waarin we handelingen verrichten. Dus daar ga ik het straks nog over hebben, want de Boeddha legt daar heel zwaar de nadruk op. Karma is de handeling en de intentie. Donc c'est vraiment, encore une fois, le karma c'est l'action conditionnée et l'intention de cette action. Les deux. Une première remarque à faire tout de suite, parce que c'est ici en Occident un peu mal entendu, le fruit du karma, donc ce que le karma, l'action va produire dans le futur, c'est pas le karma, c'est le fruit, c'est le résultat. Alors que nous aussi en Occident, on a plutôt tendance à faire un amalgame, l'intention, l'action et le fruit, tout ça c'est karma. Mais non, c'est les deux premiers. Le fruit, c'est autre chose. Dus een eerste opmerking die we nu zeker moeten doen, het is, karma is niet de het gevolg van die handeling. Karma is de intentie en de handeling zelf. Het gevolg, het resultaat van de karma, dat is iets apart, dat is iets anders. Voilà, donc ça c'est une première remarque par rapport à la définition. Deuxième remarque, tout de suite, à dire, traditionnellement, dans tout l'Orient, et même pour le Bouddha aussi, traditionnellement, on dit une bonne action, un bon karma, engendre un bon résultat. Une mauvaise action engendre un mauvais résultat. Au final, c'est simple. Hein? C'est une tweede opmerking. Iets dat traditioneel in heel het Oosten wordt begrepen, maar de Boeddha begreep dat ook zo. Een goede daad, een goede karma, veroorzaakt een goed gevolg. Een gunstig gevolg. Een gunstig vrucht. Een slechte handeling daarentegen, een slechte daad, een slechte karma, produceert in de toekomst een slecht resultaat. Eigenlijk is dat poepsimpel. Alors on peut maintenant se poser la question, quels sont les critères pour dire qu'une action est bonne ou mauvaise. Parce que dans le Zen, on dit beaucoup au-delà du bien et du mal. Dus een vraag die we ons meteen kunnen stellen is, wat zijn het criteria om te zeggen dat een handeling goed of slecht is? Le Bouddha, lui, il avait une réponse à ça. Il dit, c'est dans la conséquence de l'acte qu'on va pouvoir voir si c'est bon ou mauvais. L'action est non habile si elle nuit à soi-même, à autrui ou aux deux. Et si elle détruit la sagesse, s'accompagne de souffrance, est non propice au nirvana. Voilà, ça c'est dans le Majjhima Nikaya qu'il le dit, le sutra des deux types de pensées. De Bouddha Hattarinandortop, hij zei, het is het gevolg van een handeling die bepaalt of een handeling goed of slecht is. Indien de handeling leidt tot beschadiging van zichzelf, of tot beschadiging van anderen, tot beschadiging van beiden, of zij staat inzicht in de weg, is verbonden met mentale problemen, bijvoorbeeld, leidt niet tot nirvana, dat is slecht. Dus dat staat in Majjhima Nikaya, eerste hoofdstuk. Voilà. Dus het is een tweevoudig denken, sorry. Het is het 19e hoofdstuk. Voilà. Donc ça, c'est les trois remarques que je voulais faire. Les deux remarques que je voulais faire tout de suite. Troisième chose importante, enfin, qui est tout de suite reliée quand même à ça, il faut vraiment aborder ce sujet dans le contexte de l'enseignement du Bouddha de la coproduction conditionnée. Il y a un rapport qui est complètement évident là-dedans. Donc la coproduction conditionnée, d'ailleurs Michel Fabra nous en a parlé dans un Taisho en ligne il y a 2 mois en arrière, donc allez écouter ce Taisho si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Dus het is belangrijk dat we de wet van karma en het onderricht van de Bouddha daaromtrent zien in de context van het voorwaardelijk ontstaan. Dus het onderricht van de Bouddha over de cyclus, de 12 schakels van oorzakelijk ontstaan. Ik verwijs hierbij naar de Taisho die Michel Fabra heeft gegeven 2 maanden geleden. Dat was het onderwerp van zijn Taisho, om uw herinnering terug een beetje op peil te houden. Maar je vais un peu le résumer là. Ces 12 maillons de la chaîne de la coproduction conditionnée, quels sont-ils, ces maillons? Qu'est-ce qui provoque finalement l'insatisfaction? Qu'est-ce qui provoque la souffrance et la douleur? Il y a 12 phases. Donc ça, l'ignorance, pour le Bouddha, ça commence avec l'ignorance qui engendre la volition, les tendances. Dus de onwetendheid is voor de Bouddha de eerste schakel. Dat is hetgeen dat in gang zet. En de onwetendheid leidt tot de wil, tot neigingen. Les tendances engendrent la conscience. De neigingen leiden tot bewustzijn. La conscience engendre ce qu'on dit en Pali, namarupa, nom et forme, corps esprit. Dus het bewustzijn leidt tot wat we in Pali noemen namarupa, naam en vorm, lichaam, geest, is dat. Namarupa engendre les 6 sphères d'essence, qu'on connaît. Namarupa leidt tot de 6 gebieden van de zintuigen. Les 6 sphères d'essence engendrent le contact avec le monde extérieur. De 6 gebieden van de zintuigen genereren contact met de buitenwereld. Le contact engendre le désir. Het contact geeft aanleiding tot verlangen. Le désir et les sensations engendrent l'attachement. De verlangen, de gevoelens, leiden tot gehechtheid. On veut garder, ou bien on veut se séparer. Et l'attachement engendre le devenir. De gehechtheid leidt tot wording. Le devenir engendre la naissance, de nouvelle existence. De wording leidt tot de geboorte van een nieuw bestaan. Et la naissance engendre ce qu'on connaît tous, le vieillissement, la maladie et la mort. En de geboorte leidt, brengt voort veroudering, hetgeen we allemaal kennen, veroudering, ziekte en dood. En weeklagen, et lamentation, que dit toujours le Bouddha. Donc ça, c'est bien important de voir le karma dans ce grand cycle de la coproduction conditionnée. Het is belangrijk om karma te zien binnen de context van oorzaak en gevolg van het voorwaardelijk ontstaan. Et ce qui est intéressant, que ce n'est pas notre volonté qui met les choses en route, mais c'est l'ignorance. Dat moeten we onthouden. Ça, il faut vraiment se rappeler, l'ignorance nous met tout ce truc en mouvement. Et c'est quelle ignorance? C'est l'ignorance des quatre vérités. Les quatre nobles vérités, c'est l'ignorance de l'octuple sentier. Dus de onwetendheid is belangrijk om dat goed te snappen. De onwetendheid brengt heel dat cyclus in gang. Niet onze wil, niet onze wat we willen doen of niet willen doen. Dat is niet dat, het is de onwetendheid. En over welke onwetendheid gaat het? Over de onwetendheid van de vier edele waarheden. En de onwetendheid van het achtvoudig pad. De onwetendheid, l'ignorance de l'enseignement du Bouddha, finalement. Het is echt de onwetendheid van de, over de kennis van het onderricht van de Bouddha. Le Bouddha lui-même disait que tout cet enseignement de la coproduction conditionnée est très profond et difficile à bien saisir. Parce qu'Ananda, il était là, il disait, oh, j'ai tout compris. Et il lui dit, non, ne dis pas ça, Ananda, la loi de la coproduction conditionnée est profonde et difficile à bien saisir, à bien l'incorporer, peut-être plutôt à dire. Dus Bouddha zei ook omtrent de wetmatigheid van het voorwaardelijk ontstaan dat dat een moeilijk te doorgronden wetmatigheid is. Want Ananda was daar en zei, oh, ik heb alles begrepen. Die 12 schaduws, oké, geen probleem. Bouddha zei, nee, zeg dat niet, Ananda, zeg dat alsjeblieft niet. De wetmatigheid van het voorwaardelijk ontstaan is diep en is moeilijk. Ja, het is moeilijk om je dat eigen te maken. Voilà. Et je pense que c'est la même chose pour le karma. On dit plein de choses sur le karma. Ouais, c'est ton karma, c'est son karma. Mais c'est beaucoup plus profond que simplement la cause et le on va étudier ça, et le fruit de cette cause. Dus ik geloof dat dat ook zo geldt voor de wetmatigheid van karma. Want we horen dat, ja, het is zijn karma, het is mijn karma, ik kan er niks aan doen. Het is allemaal zeer gemakkelijk gezegd, maar het is veel dieper dan dat. En dat, ja, dat moet doorgronden worden, encore une fois, ça doit être approfondi, ça doit être vraiment une pratique, une des parties de notre pratique. Voilà. Alors, traditionnellement, j'explique les choses à bord du point de vue traditionnel, la doctrine du karma est liée à la conception des renaissances. Dus traditioneel, ik begin met te vertellen vanuit de traditie, in het Oosten is de leer van de karma gekoppeld aan het concept van wedergeboorte. Donc, on peut dire, une bonne action engendre un bon résultat dans la renaissance future. Pas seulement maintenant, mais aussi dans une nouvelle existence, après la mort. Ça, c'est la façon traditionnelle. Hein. Dus une goede daad produceert un goed résultat, niet alleen in dit leven, maar ook in toekomstige levens, dus na de dood. Je souhaite ne pas trop m'aventurer sur le truc des renaissances. Pourquoi? Parce qu'en Occident, c'est un concept qui est un peu flou, un peu folklorique, un peu exotique, et qui engendre, à mon sens, beaucoup de mauvaises compréhensions. Ik ga mij niet te veel wagen op het gebied van de wedergeboorten, heel dat concept. Omdat, waarom niet? Omdat in het Westen dit concept niet heel duidelijk is, vaag, zelf exotisch en het heeft een tintje folkloristisch. En dat leidt tot heel veel misverstanden. Mais en fait, il faut bien voir que le Bouddha en a parlé. C'est un constat. Hein? Dus de Bouddha heeft daarover gesproken. Et il en a parlé, aussi bien que moi je peux le voir. Il faut mute les gens, il y a quelqu'un qui me parle dans l'oreille. Il en a parlé dans le contexte de son expérience de l'éveil. Dans la quatrième phase de sa nuit de méditation, il dit littéralement, c'est comme ça dans les textes, avoir eu la connaissance de ses propres renaissances antérieures. De Bouddha heeft daarover gesproken, dat is ontegensprekelijk zo. Maar hij heeft het over gesproken, voor zover ik het kan zien, in de context van zijn ervaring van het ontwaken. In de vierde fase legt hij uit dat hij kennis heeft gekregen van zijn eigen vroegere wedersgeboorte. Et ces renaissances, ce n'est pas l'avant-dernière, ce n'est pas celle d'avant, ce n'est pas la dixième avant, ce n'est pas la centième. Il dit que ça va jusqu'à 100 000 renaissances qu'il a vues. Hein. Qui il était, en quel moment, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Voilà, il le dit, ce sont ses mots. Dus het is niet zijn vorige leven, het is niet het leven daarvoor, het is niet 10 levens ervoor, het is... Hij zegt het letterlijk, tot 100.000 vorige levens heeft hij kennis genomen. Hij wist wie hij was op dat moment, wat hij gedaan heeft enzovoort. Wat zijn leven is geweest. Alors, comment interpréter ça? Je le laisse pour l'instant tel quel. Je n'y touche pas trop, ce sont ces mots. Parce qu'il faut bien se dire aussi qu'à part ça, à part cette expression... Et il a toujours pris le silence quand il avait des questions sur la question après la mort. Dus ik laat het zo, ik kan daar niet te veel verder interpreteren, iedereen moet dat voor zichzelf maar uitmaken. Het is ook zo dat de Boeddha stil bleef en geen antwoord gaf op vragen over concreet het leven na de dood. Ça c'est intéressant, il a toujours pas voulu répondre concrètement qu'est-ce qui se passe après. Et beaucoup de maîtres zen ont fait la même chose. Hein. Le maître Deshimaru disait « as you like hein, ». Donc, est-ce qu'il y a vie ou est-ce qu'il n'y a pas vie ou est-ce qu'on renaît hein, « as you like ». Voilà. Donc, c'est un peu le même sentiment que j'ai. Veel zenmeesters hebben dat ook daar niet te veel over uitgeweid. Eigenlijk weet niemand daar iets over. Personne ne sait quoi que ce soit. Et le maître Deshimaru lui-même disait « as you like ». Is er iets na de dood? Is er iets? As you like. Voilà. Mais ce qui est important dans le concept des renaissances, il me semble, c'est ici et maintenant, on peut observer que nous renaissons continuellement, jour après jour. Maar het belangrijkste in het concept van wedergeboorte, en daarom haal ik het hier aan, is hier en nu, in dit leven. Hoe wij herboren worden, dag in dag uit. Of zelfs in het verloop van de dag. En même dans le courant d'une seule journée, on passe différents états dans les six mondes. Hein, le monde des humains, avec la souffrance, le monde des dieux, celui des guerriers, quand on est en colère, celui des prêtas, le monde où on a toujours faim. Celui de l'enfer et celui de l'animal. We transmigreren constant in die zes werelden. De wereld van de mensen met het lijden. De wereld van de goden, waar alles koek en ei is. De wereld van de krijgers, wanneer je in woede bent. De wereld van de preta, wanneer je hongerig bent. De wereld van de helle wezens, wanneer het helemaal uit elkaar spat. En de dierenwereld. Ça, je pense que on peut vraiment... observer ça. Quand on pratique le zazen, on peut observer ça, on peut le voir. Voilà. Et peut-être au lieu de parler de renaissance, il y a un terme que j'ai découvert, Dominique Trottignon, un professeur à Paris, lui, il aime bien parler d'existence renouvelée. Je trouve que c'est quelque chose, une existence renouvelée. On renaît dans des existences renouvelées. Voilà. Dus er is een term die Dominique Trottignon, een professor in Parijs, over het boeddhisme, het hernieuwd bestaan, heeft geformuleerd. dat vind ik wel een toffe uitdrukking. Hernieuwd bestaan, hoe wij eigenlijk constant ja, in die hernieuwd bestaan verwikkeld zijn. Autre remarque par rapport au ce concept de existence renouvelée, c'est qu'il faut bien se dire toujours, il n'y a pas quelqu'un qui renaît. Ça, c'est vraiment capital. Dus wat ook een belangrijk zijconcept is van het hernieuwd bestaan, is het is niet iemand die herboren wordt. Er is geen ik, il n'y a pas un moi qui renaît. Maar alors c'est quoi qui renaît? Maar wat wordt dan herboren? Là, c'est un koan. Je pense qu'il faut que tout le monde devrait solutionner. Qu'est-ce qui passe du monde des humains au monde des dieux, etc., etc. Qu'est-ce qui passe d'une existence à une autre? Qui? Wat gaat er eigenlijk over van de ene bestaan naar de andere? Van de wereld van de dieren, naar de wereld van de mensen, van de wereld naar de goden, enzovoort, enzovoort. Wie of wat? Qui ou quoi? Peut-être qu'il faut dire comme ça. Quoi? Ben, il faut observer. Il faut observer. Et peut-être qu'une image qui peut vous aider dans notre période de l'informatique, c'est l'information qui passe, qui transmigre d'un état à un autre. Ce n'est pas quelque chose de fixe. Mais l'information, on va le voir, l'influence de l'action passe d'un moment à un autre. Wat misschien ons kan helpen is de wereld van de informatica en spreken in termen van informatie. Het is niet iemand, het is niet een vast ding dat overgaat van de ene bestaan naar een ander bestaan, maar het is de informatie die overgaat. Dus de karma produceert een invloed, een informatie, en het gaat over van de ene bestaan naar een ander. Dat migreert. Je pense aussi que la transmigration elle-même est le fondement même de notre être. Het feit dat er transmigratie is, dat is. Het is niet iets dat meegaat, het is hele ding. Dat is onszelf. C'est pas quelque chose. Et donc la transmigration elle-même, elle est l'être. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas une petite bille, hein, un petit truc fixe qui va d'un à l'autre. Non, c'est vraiment tout le truc, toute la transmigration, toutes les différences. Différentes existences, ça c'est notre être, c'est ce que nous sommes, dat is wat we zijn. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction. Donc encore, je reviens maintenant, je vais vous lire quelques fragments pour bien dire que karma pour le Bouddha c'était super important, que karma c'est aussi l'intention. En dus ik ga jullie nu een paar citaten van de sutras reciteren, van voorlezen, waarbij blijkt dat voor de Boeddha dat superbelangrijk was, dat de intentie ook karma is. Alors, le premier, première citation, aussi dans le Anguttara le même, d'ailleurs que tout à l'heure, 663, c'est la volition au bhikkhu, hein, donc les moines, au moine, que j'appelle karma. Ayant voulu, on agit au moyen du corps, de la parole et de l'organe mental, l'esprit. La volition, l'intention est la construction mentale, une activité mentale. Sa fonction est de diriger l'esprit dans la sphère des actions bonnes, des actions mauvaises ou des actions neutres. De eerste citaat, het is de wil, ook uit die Anguttara Nikaya 663, het is de wil, hè, o bhikkhus, o monnike, die ik karma noem. Na onze wil handelen we door middel van het lichaam, de spraak en het mentale orgaan, de geest. Enfin, je monte la tête quand je parle d'esprit, mais en fait, c'est faux. C'est tout. Wilskracht, de intentie weer, is mentale constructie, mentale activiteit. De functie ervan is de geest te sturen in de sfeer van goede, slechte of neutrale handelingen. Voilà, dat is déjà un. Donc, c'est voilà. La volition, l'intention, c'est ce que j'appelle karma. Donc, ça, c'est la phrase qu'il faut vraiment bien retenir. Alors, deuxième citation, c'est dans le Majjhima Nikaya, le chapitre 19. C'est justement dans ce chapitre où il explique son expérience de l'éveil. C'est assez long, d'ailleurs. Ce à quoi un moine pense et réfléchit fréquemment devient l'inclination de son esprit. Si un moine pense et réfléchit fréquemment à des pensées empreintes de désirs sensuels, il abandonne ainsi les pensées de renoncement pour cultiver les pensées empreintes de désirs sensuels. Et la même chose pour les pensées empreintes de rancune, et la même chose, à chaque fois il répète, pour des pensées empreintes de nocivité, donc de on va faire du mal. Donc aussi, ça c'est vraiment le truc que tout le monde peut vraiment bien expérimenter, je pense, à des sites dat iedereen goed kan ervaren. Dus ik ga het even voorlezen in het Nederlands, Majjhima Nikaya hoofdstuk 19, dat is het hoofdstuk waar hij praat over zijn ervaring van het ontwaken, dat redelijk lang is. Wat een monnik vaak denkt en overdenkt, wordt de neiging van zijn geest. Als een monnik vaak denkt en nadenkt over gedachten die doordrongen zijn van zinnelijk verlangen, laat hij dus gedachten van verzaking varen, om gedachten van te cultiveren die doordrongen zijn van zinnelijk verlangen. En hetzelfde geldt voor gedachten van wrok, dus hij herhaalt dan al die dingen, en de gedachten van schadelijkheid, als we iemand willen, of iemand of iets of een situatie schade willen toebrengen. Donc, c'est vraiment le pli qu'on met vraiment avec cette volonté de faire quelque chose qui est importante dans la loi du karma. Dus het is echt wanneer je iets echt in een plooi zet, dat je dat echt heel nadrukkelijk die plooi goed glad strijkt, dat die plooi er echt in zit, ja, dat is de wetmatigheid van karma. Het is niet onschuldig, c'est pas innocent. Alors, une dernière citation qui vient du Dhammapada, ce fameux poème, le Dhammapada, les deux premiers versets. Le premier, je l'ai déjà dit ici, mais je le rappelle, il faut répéter les choses. Le mental est l'avant-coureur des conditions. Le mental en est le chef. Et les conditions sont façonnées par le mental. Si avec un mental impur, quelqu'un parle ou agit, alors la douleur le suit, comme la roue suit le sabot du bœuf. C'est une image parlante, je trouve. La roue qui tourne, qui fait une ornière et qui suit les sabots du bœuf qui tire le char. C'est ça la fonction du mental. Dus in het Nederlands, de geest is de voorbode van omstandigheden. De geest is de heerser over omstandigheden. En omstandigheden worden gevormd door de geest. Als iemand spreekt of handelt met een onzuivere geest, dan volgt pijn hem, zoals het wiel, de hoef van de os volgt. Dat is een zeer tot de verbeelding sprekend beeld. Hè? Dus dat wiel, dat een voortrekt in het land, dat gewoon dus de hoeven volgt van de os die de kar voorttrekt. Dat is werkelijk de functie van ons mentaal. Alors, ça c'est le premier verset, mais il y a aussi le deuxième verset qu'il faut quand même dire aussi. Le mental est l'avant-coureur des conditions, le mental est le chef, et les conditions sont façonnées par le mental. Si avec un mental pur, quelqu'un parle ou agit, alors le bonheur le suit comme l'ombre qui jamais ne le quitte. De geest, dus we moeten de tweede vers ook wel bij vermelden. De geest is de voorbode van omstandigheden. De geest is de leider. En omstandigheden worden gevormd door de geest. Als iemand met een zuivere geest spreekt of handelt, dan volgt hem geluk. Als de schaduw die hem nooit verlaat. Donc voilà, c'est vraiment tout est dans nos mains. Hein. C'est ou l'un ou l'autre. Donc, il faut bien accepter, je pense, quelque part, oui, accepter, que notre façon de penser est vraiment capitale. Notre mental, notre intention imprime vraiment dans notre corps, dans nos cellules. Il y a une information qui rentre là-dedans. Et ça va nous guider, ça va nous manipuler, ça va nous guider, ça va nous faire bifurquer à droite ou à gauche, et ça va nous faire errer sur toutes les chemins d'errance possibles. Ou alors, on peut se retourner vers la pratique et complètement changer les choses. Ça aussi, c'est un karma, se diriger vers la pratique. De ce karma, de intentie waarmee we handelen. Dus onze mentale toestand, de manier waarop we denken, is van kapitaal belang voor ons leven. Want het drukt een stempel uit in ons lichaam, tot in onze cellen. Ik geloof dat daar een soort informatie wordt in opgeslagen die van het mentale komt. En die ons gaat leiden, die ons gaat misleiden. Die ervoor gaat zorgen dat we gaan dwalen. Of die ervoor gaat zorgen dat we ons keren naar de beoefening, naar de Boeddha. Want de twee zijn mogelijk natuurlijk. Het ligt in onze handen. Voilà, donc c'est vraiment à ça qu'il faut accepter cette façon de voir. Ik denk dat we dit moeten aanvaarden, of leren aanvaarden misschien, want het is niet zo gemakkelijk natuurlijk. C'est pas si simple d'accepter ça. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant des malentendus par rapport au karma. Kan jullie nu onderhouden over de misverstanden? Le premier malentendu, il ne faut surtout pas confondre la doctrine du karma avec une quelconque justice morale ou un système de récompense et de punition. Het eerste misverstand die we zeker moeten vermijden, en dat gebeurt vaak, is dat we karma, de wetmatigheid van karma, verwarren met een soort gerechtigheid. Morele rechtvaardigheid. Een soort systeem van beloning en straf. Dans la doctrine du karma, tel que le Bouddha le concevait, il n'y a pas un personnage externe, un juge externe, une sorte de dieu créateur qui va juger ce que personne a fait du bien et de mal. Ça, c'est dans le christianisme et dans beaucoup de religions monothéistes, c'est comme ça. Mais ce n'est pas comme ça dans le karma. Hein, dus, er is geen extern rechter die oordeelt over de goede daden of de slechte. Er is geen soort scheppende god, zoals het bestaat in de monotheïsme, die gaat oordelen of iemand goed of kwaad heeft gedaan. Donc ça, il faut vraiment bien abandonner cette idée. Hein, c'est difficile parce que c'est notre culture. Het is moeilijk omdat er ook onze cultuur is. Deuxième malentendu, le karma, ce n'est pas du déterminisme. Ce n'est pas, notre vie n'est pas comme un train qui serait sur des rails et les rails ont été décidés par avant, je ne sais pas comment, voilà, et le train suit les rails. Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein, dus een tweede misverstand die we moeten vermijden is: karma is geen wet van determinisme. Ons leven is niet als een trein die op rails op de sporen zit en die alleen die sporen die op voorhand zijn vastgelegd door we weten niet wat. En de trein kan alleen maar die sporen vol. Dat is het niet. Ça, ce n'est pas ça. On peut avoir le sentiment qu'on est de jour en jour toujours à faire les mêmes choses. Je kunt misschien de indruk hebben dat je van dag tot dag altijd hetzelfde doet. Mais ça, c'est notre façon de faire. C'est le copier-coller dont j'ai beaucoup parlé. C'est facile, c'est simple, on ne doit pas trop réfléchir. On fait aujourd'hui ce qu'on a fait hier. Ik heb er al veel over gesproken. We hebben dat gevoel wanneer dat we copy-pasten. We herhalen vandaag wat we gisteren hebben gedaan. Het is gemakkelijk, het vraagt geen energie en we doen het. Dat zijn gewoontes, ce sont les habitudes. Mais ce n'est pas du déterminisme pur et dur. Okay. Parfois, les gens ils disent, ce n'est pas maintenant que je vais changer. Mensen zeggen dat soms. Het is niet vandaag dat ik ga veranderen. Het is al heel mijn leven zo. Ja, sorry, nee, zo is het niet. Les gens disent, ce n'est pas maintenant que je vais changer. Toute ma vie, ça a été comme ça, ça ne va pas changer. Ben non, ça peut changer. Et le Bouddha, l'enseignement du Bouddha nous donne cette perspective de pouvoir sortir de la souffrance. En het onderricht van de Boeddha geeft ons de mogelijkheid om uit het lijden te treden. Ça c'est quelque chose aussi qu'on peut observer en zazen. Dat is ook iets dat je in zazen kunt observer. On a la possibilité de ne pas suivre une image mentale. We hebben de mogelijkheid om een bepaald mentaal beeld, een gedachte, niet te volgen. Die vrijheid hebben we. Cette liberté, on l'a. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, que le karma n'est pas infini. Wat ook belangrijk is goed te begrijpen, dat de karma, de wetmatigheid van karma, niet oneindig is. À un moment donné, le karma, l'influence du karma, l'influence de cette action et de l'intention, va s'épuiser. Par d'autres influences karmiques, par d'autres conditions. Ou alors, il va même produire un fruit. En ce moment-là, ça s'arrête. Dus karma is niet iets dat oneindig lang duurt. Op een gegeven moment kan dus karma, de handeling en de invloed daarvan, op een gegeven moment gaat dat uitdoven. Door invloeden van andere karmische invloeden. Of het gaat op een gegeven moment echt een vrucht provoceren. Voortbrengen. En dan stopt het karma. Of de invloed daarvan. Voilà, ça c'est le deuxième malentendu que je voulais bien oublier cette histoire de déterminisme et que tout est décidé à l'avance. Troisième malentendu, tout n'est pas karma. Ça c'est très très important de bien comprendre. Le Bouddha le dit lui-même. Un derde misverstand is, niet alles is karma. Le Bouddha benadrukt het zelf, dit in een sutta, Il le disait dans un sutra, il dit, c'est le Sutta Sivaka, pour ceux qui veulent le lire, Sutta Sivaka, il dit, il y a des événements que nous ne vivons parce que produit. Ah oui, alors ça, là, la citation commence maintenant. Donc, il y a des événements qui sont produits par la bile, le phlegme, les humeurs, le souffle, le changement des saisons à cause d'incidents irréguliers ou d'accidents soudains. Hij zegt, er zijn gebeurtenissen die veroorzaakt worden door gal, door slijm, door humeuren, door de adem, door de wisseling van de seizoenen, door onregelmatige voorvallen of plotselinge ongelukken. Alors, ça c'est intéressant, je trouve. Dat is iets dat toch wel interessant is, vind ik. Enerzijds ook, il y a deux choses là-dedans. C'est même médical, hein. Il va parler de la, selon la médecine de l'époque, bien sûr, hein, la bile, hein, le phlegme, la respiration, etc., etc. Tout ça peut provoquer des conditions qui vont amener à des phénomènes qui ne sont pas karmiques. Deuxième chose, c'est les saisons. Le changement de saison va faire que quelque chose va se produire qui n'est pas karmique, qui n'est pas le fruit d'une influence karmique. Et par exemple, quelque chose qui est vraiment très important, mais vraiment très important, c'est par exemple la guerre. La guerre, on peut se dire, oui, la guerre maintenant en Palestine, en Ukraine, etc., c'est leur karma. Mais non, c'est pas leur karma. Dus het is belangrijk omdat er soms, hij zegt ongelukken, hij parle d'accident, hein, like de oorlog is zo'n ongeluk. Dat is niet iets dat iemand persoonlijk heeft als vrucht moet ondergaan. Dat is niet waar. Die honderden kinderen die in Palestina nu gestorven zijn, dat is niet hun persoonlijk gevolg van hun persoonlijke karma van vroegere levens. Zelfs niet. C'est pas vrai. Hein, toutes ces victimes, les enfants qui meurent en Palestine ou ailleurs, enfin, je veux dire, bon, on parle de la Palestine parce que c'est actuel, bien sûr. Mais c'est pas vrai que c'est leur karma qui doivent subir cette guerre. Pas du tout. C'est l'illusion des gens. C'est l'illusion des hommes, c'est la folie des hommes. C'est ça le truc qui a provoqué la guerre. Mais on entend parler de ça. Hein. Ouais, mais c'est son karma. Il a le cancer. Ouh, c'est son karma. C'est dangereux de parler comme ça. C'est echt gevaarlijk om zo te praten van, ja, il heeft kanker. Ouh, c'est son karma. Nee, absoluut niet. C'est ça qu'on peut, je vais en parler un peu tout à l'heure, hein, la complexité de la chose, c'est vraiment... Et justement, j'arrive au quatrième malentendu. Il n'y a pas une cause qui produit un fruit. Le vierde misverstand est qu'il n'y a pas une cause qui une soort vrucht teweeg brengt. Les Anglais, ils ont une magnifique expression, ils disent... Tit for tat. T-I-T for tat. Donc ça, ça. De Engelsen hebben zo'n leuke uitdrukking. Hein? Tit for tat. Non, le karma et l'influence du karma et le tout ça, c'est un système extrêmement complexe, flexible, fluide, dynamique. Il n'y a pas un truc linéaire. Il y a d'ailleurs le moine Theravada, que j'ai beaucoup d'estime pour lui d'ailleurs, Thanissaro Bhikkhu, peut-être que vous le connaissez, hein, américain. Son nom américain, c'est Geoffrey de Graaf. Il est le premier à expliquer le karma et l'influence du karma avec une image des mathématiques. Et j'adore. Et je vais vous le montrer. Er is een Theravada monnik waar ik heel veel bewondering voor heb. C'est d'ailleurs un moine des forêts, hein, c'est une tradition qui est très proche du Zen. Donc c'est un monnik van de bosmonnik, hein, die heel dicht bij de ons zit. Thanissaro Bhikkhu, un Américain, Geoffrey de Graaf, die voor de eerst, als eerste bij mij weet, de karma heeft voorgesteld onder de vorm van wiskunde. En ik ga het jullie laten zien. Je vais vous montrer ça. Vous connaissez tous les fractales, ça. Fractal de mandala, c'est un ensemble de, qu'on appelle ensemble de Mandelbrot, qui, en fait, c'est là, c'est statique, mais à la base de ça, il y a une équation mathématique toute simple. Op basis hiervan is een super eenvoudige wiskundige vergelijking. Maar als je die uitwerkt, wordt dat een zeer complex geheel. Et ce qui est intéressant, c'est que la structure, la forme, quand on commence à rentrer à l'intérieur, est répétée. Elle n'est pas seulement répétée dans le tout, mais elle est aussi répétée dans la profondeur. C'est ça le karma, l'influence du karma. Allez, pour la photo. c'est une structure dont les formes se répètent, pas seulement dans le plan, mais aussi à l'intérieur. Quand on commence à rentrer à l'intérieur, on retrouve la même structure. Mais ça, là, je peux pas le montrer parce que il faudrait un autre ordinateur. Mais voilà, ça c'est l'image, quoi. Et ça me plaît beaucoup. Donc, et ça, cette image en tête, quand on parle vraiment de la loi du karma, hein, la complexité de la chose. Et puis arrêter de dire c'est son karma, parce que c'est lui qui l'a voulu, etc. En dus je hebt dit beeld echt in uw hoofd wanneer je ja, moet nadenken over ja, hoe ontstaan de dingen en zo. En dat is zijn karma, dat is zijn fout. Mais c'est ça, la complexité de la chose, c'est vraiment ça. Parce que c'est vrai que le karma, c'est simple. un mauvais karma, on l'a dit. C'est ça, à la fin, c'est ça. Quand on, le truc mathématique est simple, mais on arrive à ça. Voilà. Alors. Que j'avance là. Encore 10 minutes. Bon, ça va. Oui, je vois ici. Bon, je vais laisser tomber les choses. Hein. Oui, je vais parler de la voie du milieu, encore une fois. Ça, c'est l'enseignement fondamental du Bouddha. Dus de middenweg in verband met karma. Wat is dat? Wel, zoals ik zei, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas du déterminisme pur et dur, implacable, inchangeable, mais c'est pas non plus du libre arbitre qui part dans tous les sens. C'est ni l'un ni l'autre. Het is geen vaststaande déterminisme die onwrikbaar is, die onbeweeglijk is, die onverbiddelijk, enzovoort, enzovoort. Het is niet dat, maar het is ook geen vrije wil die alle kanten uitgaat. Parce que là, on vit vraiment dans notre société et notre culture hyper individualiste. On se dit, on a toutes les manettes dans les mains pour faire, pour créer sa vie. C'est pas vrai. Il y a du karma, il y a de l'influence de karma, karmique, qui vient de très loin. In onze zeer sterk op individu gerichte samenleving en cultuur hebben we zo het gevoel dat we alle touwen in handen hebben. We kunnen alles beslissen van ons leven. Maar dat is dus niet waar. Dat is een illusie. C'est une illusion. Cette histoire de libre arbitre, c'est une illusion. Ça fait déjà beaucoup, depuis beaucoup que les scientifiques l'ont dit, depuis au moins 50 ans, avec les travaux de Benjamin Libet, qui explique vraiment qu'une décision est déjà prise avant qu'on en ait conscience, par notre cerveau. Hein, dus, het is al 50 jaar dat de wetenschappers zeggen dat de vrije wil niet bestaat. Hein, maar voilà, dus onder andere met het werk van Benjamin Libet, die heel duidelijk heeft aangetoond dat beslissingen soms worden genomen vooraleer dat je ze bewust van wordt. Voilà, donc c'est ni l'un ni l'autre, c'est ni déterminisme, ni libre arbitre. Donc on est vraiment au carrefour, comme ici, hein, on est une de ces petites particules, hein, d'un énorme complexe d'entrée, d'influence, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable de ce qu'on fait. Dus we zijn op het kruispunt van enorm veel invloeden, wat niet wil zeggen dat we niet verantwoordelijk zijn voor. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce Taisho la danse de l'intention et du libre arbitre. C'est une danse, c'est quelque chose de mouvant, c'est ça. Voilà. Daarom heb ik deze Taisho de dans van intentie en vrije wil genoemd. Het is een dans omdat dat een dynamisch proces is. Altijd in beweging. Alors, je vais terminer avec une phrase un peu étonnante. Le karma n'existe pas. Après tout ce que j'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Nagarjuna. Ik ga eindigen met een laatste stelling. Karma bestaat niet. Ja, na al mijn uitleg moeten we daar toch wel op toekomen. Dat is niet van mij, het is van Nagarjuna. En fait, ce qu'il veut dire par là, voor degenen die dat willen zoeken, het is hoofdstuk 17 van versen uit het midden van Nagarjuna. C'est le chapitre 17, pour ceux qui veulent vraiment lire le chapitre, distance du milieu. D'abord, une première chose avec Nagarjuna, pour bien comprendre Nagarjuna, il faut bien comprendre qu'il y a deux points de vue qu'on peut avoir sur le réel. Om goed Nagarjuna te begrijpen, moet je begrijpen dat er twee standpunten zijn die je hebt tegenover de realiteit. C'est d'abord le point de vue relatif, réaliste, celui qu'on voit, celui qu'on commun de tous les jours, quotidien. Il y a vous, il y a moi. Il y a haut, il y a bas, il y a l'acte et celui qui fait l'action, il y a l'intention, il y a le résultat, il y a le feu, le combustible, toutes ces dichotomies, hein, tout ce qu'on connaît, le monde tel qu'on le connaît. Ça, c'est un point de vue qu'il ne nie pas, Nagarjuna. Mais il y a un autre point de vue. Hein. Dus dat is het standpunt van het dagelijks leven, van het realisme, wat dat wij ervaren. Het is ik, jullie, hoog, laag, al die tegenstellingen die er zijn. De persoon die handelt, de handeling, de intentie, het resultaat, al die, het vuur, brandstof enzovoort. Mais il y a aussi un autre point de vue, et c'est sur le point de vue de Bouddha. Le point de vue qu'on appelle absolu, le point de vue de Zazen, en fait, c'est ça. Hein, het andere standpunt is het standpunt van Bouddha, het standpunt van het ontwaakte wezen, het standpunt van Zazen eigenlijk. Et ce n'est pas le réel que Nagarjuna nie dans le point... C'est notre conception du réel qu'il nie. Het is niet... Het is niet de realiteit die Nagarjuna ontkent in dat absolute standpunt. Het is ons voorstelling van de realiteit die hij ontkent. Par exemple, il dit, avec ses interlocuteurs, l'acte n'existe pas en lui-même. Donc le karma n'existe pas en lui-même. Il est dépourvu d'une nature propre. En fait, c'est vraiment la vision de la vacuité. Le karma est vide. Il n'y a pas quelque chose de fixe là-dedans, qu'on peut saisir. Dus hij zegt met zijn tegenspelers, de handeling bestaat niet op zichzelf. De handeling heeft geen eigen aard. Er is niet, dat is echt de leegheid, zin van de karma. C'est vraiment l'enseignement de la Nyashinyos, ce qu'il dit là. Pas plus que ça. Voir la vacuité des choses, voir comment ça fonctionne, dat is het. C'est vraiment voir, et pas voir comment on s'imagine que c'est. C'est pour ça qu'il dit que le karma n'existe pas. Voilà, c'est pour ça qu'il dit que... Ja, ik moet in het Nederlands zeggen, denk ik. Daarom zegt hij, met die kennis van de grote wijsheid van Nyashinyo, de leegheid van alle fenomenen zien, ook de leegheid van de karma inzien, er is geen karma. En je termine avec une phrase assez étonnante. C'est la dernière phrase du chapitre 17. Passion. Oui, il compare le karma avec la passion. Acte, agent, fruit, ressemble à une ville de génie céleste. Sont pareils à un mirage, à un songe. C'est beau. C'est du rêve, ce qu'on s'imagine. C'est. Shakespeare aussi disait ça. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is surrounded with sleep. C'est dans la tempête. Donc, nous sommes faits de la même matière. Que la matière des rêves. Et notre toute petite vie est entourée de peut-être de ça, de sleep, de sommeil. Dus hij zegt dat het laatste, nu in het Nederlands, dus hij vergelijkt dat met de droom. Passies. Dus karma passies, hetzelfde voor hem. Handelingen, makers, vruchten, lijken op een stad van hemelse geesten. Zijn als een Fata Morgana, een droom. Ja, Shakespeare zei het ook, hè. Ik heb het. We are such stuff as dreams are made on. And our little life is surrounded with sleep. Voilà. Donc il faut s'éveiller. Il faut sortir de rêve. Il faut sortir de ce sleep. Il faut vraiment sortir de ce sommeil. We moeten ontwaken. C'est ça notre pratique. Bon, je crois que j'ai beaucoup trop dit là.